Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus en 6,6 FM pour, comme chaque mercredi, de 16h à 16h30, le magazine Campusil Info, un magazine consacré à l'Université de Lille. On va parler aujourd'hui d'une maladie très connue qui se répand, j'allais dire, qui, de manière galopante auprès des générations les plus âgées. Une maladie que tout le monde connaît maintenant, malheureusement, qui s'appelle la maladie d'Alzheimer. Alzheimer, c'est un nom, on présentera peut-être l'origine de du nom de cette maladie. Et aussi, nous aurons l'occasion aujourd'hui de voir comment on s'empare de ces problèmes, ces problématiques, avec notamment des chercheurs, des médecins et toutes les équipes qui tournent autour justement du traitement. Pas forcément du traitement, mais au moins de l'accompagnement de cette maladie. Et donc, j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui M. Maximilien Van Laen, qui est chef de projet au CHRU de Lille et Université de Lille. Bonjour, M. Van Laen.
Bonjour.
Donc, on se retrouve aujourd'hui parce qu'on va dire une circonstance particulière. C'est une semaine qui arrive très chargée pour vous, puisque vous allez présenter de nombreuses actions autour de cette maladie d'Alzheimer.
Tout à fait. Donc, nous organisons la semaine prochaine sur 4 jours un congrès de recherche clinique et scientifique qui regroupera donc des experts francophones, particulièrement français, des équipes de neurologues, de neuropsychologues, mais également de chercheurs fondamentaux.
Voilà, 4 jours avec des rendez-vous publics, grand public, je dirais, et puis d'autres plus spécialisés.
Tout à fait. Donc le congrès est à destination en effet des professionnels, mais nous organisons en effet 2 événements à destination des malades, de leur famille et du grand public.
Donc on va faire un petit tour un petit peu de cette maladie aujourd'hui. Après on verra concrètement par rapport au public comment il peut aussi s'associer à vos travaux. Donc la maladie d'Alzheimer. Alors d'abord, Alzheimer, c'est le nom de quelqu'un qui a donné ce nom à cette maladie.
Tout à fait,
maladie.
C'est Monsieur Eloïs Alzheimer, donc un médecin autrichien qui a travaillé au début du XXe siècle.
Voilà, donc lui, il a découvert le principe de cette maladie, c'est ça ?
Tout à fait. Il l'a décrit pour la première fois, les symptômes de la maladie. En fait, il a constaté chez une de ses patientes des symptômes qui n'avaient pas été encore décrits, qu'on appelait la démence
sénile,
tout à fait. Donc avec troubles de la mémoire, des orientations et une évolution donc assez rapide de cette maladie chez cette patiente.
Je vous en prie.
Il a ensuite décrit ce cas lors d'un congrès justement de cliniciens et c'est comme ça qu'est apparue donc la maladie d'Alzheimer.
Donc cette maladie, maintenant, on en parle beaucoup, elle touche beaucoup de familles.
Tout à fait. On estime à peu près 1 million de patients en France souffrant de la maladie d'Alzheimer, avec une incidence de 200 000 nouveaux cas tous les ans.
Donc c'est assez énorme et c'est aussi très très compliqué à la fois pour les familles, pour gérer ces problématiques très particulières et aussi pour la société d'arriver à accompagner au mieux d'un point de vue économique, voire structurel, ces personnes qui sont en souffrance.
Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'en plus, cette maladie s'installe de manière totalement insidieuse. Parfois, elle n'est détectée et diagnostiquée que 10 ans après, que les lésions au cerveau n'apparaissent. Et donc, généralement, au niveau de la maladie d'Alzheimer classique, l'apparition d'une perte de mémoire sur des événements récents.
Il y a des gens à 50 ans qui ont déjà cette maladie ?
Tout à fait. C'est une forme un peu particulière de la maladie d'Alzheimer, qu'on dit du malade jeune d'Alzheimer, qui présente en effet des pertes de mémoire ou des troubles cognitifs à partir parfois même de 47 ans.
On peut considérer peut-être que c'est normal à partir d'un certain âge de perdre de la mémoire ? Quelques éléments, puisqu'on a à la fois beaucoup intégré, notre capacité peut-être, notre disque dur interne est peut-être limité et qu'il faut peut-être faire de la place. Néanmoins, chez ces personnes âgées, on constate souvent qu'ils ont gardé en mémoire beaucoup, beaucoup de vieux souvenirs et que tout ce qui est assez récent, ils ont tendance à l'évacuer très, très vite.
Alors, tout à fait. Alors, c'est tout à fait normal d'avoir des petites pertes de mémoire. Hein, tout le monde en a. Et en effet, plus on vieillit, plus on en aura. Par contre, dans le cas de ces personnes, c'est pour la maladie d'Alzheimer classique, une zone bien particulière du cerveau qui commence à dégénérer, c'est l'hippocampe, qui est une structure du cerveau qui, justement, gère la mémoire des événements récents qui sont ensuite stockés dans la mémoire à plus long terme. C'est pour ça que ces personnes auront encore une mémoire à long terme intacte, très longtemps. Par contre, ils ne seront plus capables de gérer les informations nouvelles.
Et est-ce qu'on peut dire que physiquement, comment on peut appeler ça, une glande,
Non, ce n'est pas une glande.
C'est une partie du cerveau.
C'est bien, en effet, des neurones.
Voilà, oui, des neurones. Est-ce que ces neurones-là, physiquement, ils diminuent en quantité ou est-ce qu'ils s'atrophient, ils se modifient?
Alors, oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que les neurones se développent chez un individu normal jusqu'à l'âge d'à peu près de 20-25 ans. Ensuite, et c'est tout à fait normal, nous perdons petit à petit ces neurones. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, mais également dans d'autres maladies neurodégénératives, vous avez des mécanismes qui vont détériorer le fonctionnement des neurones et au final provoquer leur mort. Dans le cas d'Alzheimer, deux types de lésions ont été observées, ce qu'on appelle les plaques séniles amyloïdes, et également ce qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires, qui vont provoquer l'un et l'autre la mort des neurones.
Alors, quand on dit la mort des neurones, souvent on a l'impression que dans notre vie, on a des choses qui meurent, mais qui sont remplacées par d'autres. C'est un peu la magie, soit les dents qui tombent, soit les cheveux qui repoussent, etc. Là, en l'occurrence, il n'y a rien derrière.
Oui, c'est la caractéristique du cerveau, c'est que les neurones sont très, très difficilement remplaçables. Il y a certaines zones du cerveau où vous pouvez avoir des nouveaux neurones, mais encore, c'est plutôt chez l'individu jeune. Ensuite, non, vous ne faites que perdre des neurones.
À quel âge on a le plus de neurones ?
C'est justement aux environs de 20-25 ans. Vous obtenez le pic de votre capacité. Ensuite, ça décline.
Voilà. Donc, il faut profiter de sa jeunesse quand même.
D'une part, mais il y a également une notion de ce qu'on appelle de la réserve cognitive. C'est-à-dire que plus vous utilisez votre cerveau, par exemple avec un niveau d'études élevé, plus vous obtenez une réserve cognitive élevée et qui donc se dégradera plus lentement, mais comme elle sera plus élevée, vous obtiendrez un taux toujours assez élevé, malgré une perte régulière.
Alors, je vois des gens âgés qui ont fait des mots croisés ou des mots fléchés pendant des années et qui ont cette maladie de façon très grave. Est-ce que justement, faire travailler le cerveau pour conserver au mieux ses neurones, c'est pas avoir une vraie diversité d'activités intellectuelles, voire pas seulement intellectuelles d'ailleurs?
Alors oui, tout à fait. Il est constaté qu'en effet, certaines activités pouvaient préserver cette réserve cognitive et permettre de ralentir, on va dire, le déclin cognitif, comme vous dites, les mots fléchés. Mais vous avez également d'autres activités telles que la lecture. On a constaté que les gens qui lisaient beaucoup avaient moins de troubles cognitifs que les personnes qui, au contraire, passaient leur journée devant la télé. La télé étant un élément très négatif, en fait, pour ce qui est de conserver sa réserve cognitive.
Alors, d'autant plus que, les statistiques disent qu'il y a moins de jeunes qu'avant devant leur télé. Par contre, les personnes âgées, elles sont de plus en plus accros à la télévision. Et j'allais dire que l'aspect dramatique de la télévision en termes d'informations, etc., qui tourne en boucle, souvent avec des nouvelles pas toujours agréables, ça ne doit pas arranger la vie des gens d'un point de vue psychologique. Est-ce que justement le stress, d'une certaine manière, hein, même chez elles, les personnes peuvent être en situation de stress avec des médias qui leur envoient une vision critique, dure, grave, on va dire, de la société extérieure. Est-ce que justement ces médias-là ont bien réfléchi à ce qu'ils amènent à ces publics-là ?
Alors, je suis pas sûr de pouvoir y répondre complètement. Ce qui a été constaté surtout, c'est dans le fait d'utiliser les médias, c'est que vous êtes surtout passif devant votre écran. Vous recevez l'information, mais vous n'en faites pas grand-chose. L'intérêt justement pour conserver une bonne une bonne réserve cognitive, c'est au contraire d'avoir une activité qui vous permet de traiter l'information et de la restituer. Voilà. Donc c'est pour ça que, par exemple, donc la lecture, mais également tout ce qui est activité sociale ou des activités telles que le jardinage ou partir en voyage, vous permet en fait de vous projeter dans l'avenir, d'organiser vos futures activités et donc de faire fonctionner votre cerveau.
Voilà, donc les activités et l'interactivité.
L'interactivité, tout à fait. On a constaté que, par exemple, les gens qui vivaient en couple avaient moins de risques de développer la maladie d'Alzheimer.
Alors, après, c'est vrai que sociologiquement, on voit que plus les gens vieillissent, et on va dire que c'est surtout la population féminine qui vit le plus longtemps actuellement. Hein. Et donc, ce sont ces femmes-là que la maladie est la plus développée, ou est-ce qu'on peut considérer que les hommes qui meurent, on va dire 6 ans ou 7 ans avant, statistiquement, on développe cette maladie avant?
Alors oui, tout à fait. Il y a deux facteurs qui font que finalement les femmes sont plus touchées par la maladie d'Alzheimer. Vous avez raison, d'une part parce qu'elles vivent plus longtemps et donc ont plus de chances, entre guillemets, de développer la maladie. Et d'autre part, il y a également le niveau d'études. Jusque dans les années après-guerre, le niveau d'études maximum était le certificat d'études et généralement les femmes n'allaient pas beaucoup plus loin. Après-guerre, comme on a développé plutôt l'aspect atteindre le baccalauréat, ça a ajouté 4 ans d'études en plus qui ont permis justement de récupérer cette différence avec les hommes.
C'est vrai que dans le long terme, on peut dire que ça va s'équilibrer, puisque maintenant, il y a au moins autant de filles que de garçons à l'université, par exemple.
Tout à fait.
Et en plus, je veux dire que les garçons commencent à moins fumer, peut-être moins boire, ça c'est peut-être moins sûr, mais ne négligent pas autant leur santé qu'avant.
Tout à fait. Vous avez plusieurs facteurs qui vont de risque, comme on dit en statistique, qui vont pas provoquer la maladie, mais favoriser son apparition. Donc vous avez des facteurs de risque génétiques, on y reviendra peut-être, mais vous avez également les facteurs de risque environnementaux, donc comme vous dites, la consommation de tabac, mais également l'hypertension, vous avez le diabète et l'obésité.
Quand on dit un diabète de type 2, par exemple, c'est un signe, ça ?
Dans les deux types de diabète, en fait, type 1 ou type 2, le risque de développer des troubles cognitifs, pas forcément d'Alzheimer, augmente.
D'accord. Alors, on peut donc avoir des informations à développer en termes de meilleures connaissances, mais ça, on nous le dit quand même, hein, pas trop boire, pas trop fumer, pas trop. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut plus faire maintenant.
Général, d'accord. Ça améliore la santé. Oui.
Donc, faut être raisonnable en tout, c'est un peu ça, hein, l'idée.
Tout à fait.
Tout en faisant de l'activité physique et de l'activité intellectuelle.
Exactement.
Et puis sortir, voir des amis, faire la fête, ça fait partie aussi du traitement.
Exactement.
D'accord.
Exactement. L'interaction sociale est très importante, oui.
Voilà. Donc, on va peut-être parler maintenant justement de ce phénomène, hein, puisque là, on est sur, j'allais dire, un pic de vieillissement de population, puisqu'on a une population qui vieillit de plus en plus. On peut dire que c'est bien d'une certaine manière, mais vivre bien, c'est mieux.
Vivre vieux et bien.
Vieux et bien.
Tout à fait.
D'accord. Et donc là, on est peut-être sur un sommet actuellement, avec des prises en charge qui commencent à poser des problèmes, c'est-à-dire que, en gros, plus l'État, hein, ou la collectivité, les collectivités pour résumer, donnent pour aider les personnes en difficulté, les personnes âgées, hein, moins elles peuvent donner peut-être aux jeunes qui ont d'autres types de difficultés. On arrive à avoir un équilibre qui devient complexe, voire faire le grand écart en permanence.
Bah, tout à fait, c'est le problème de la pyramide des âges qui est inversée. Et donc, tout à fait, les coûts associés, entre guillemets, à la gestion du vieillissement de la population va être de plus en plus lourd d'un point de vue sanitaire, donc gestion de la santé, mais socio-économique également.
Alors, c'est vrai qu'il y avait, j'allais dire des traitements, c'est peut-être pas le bon mot, mais des substances chimiques, on va dire, qui étaient données pour aider ces patients, hein, Alzheimer, donc, à ralentir un peu la maladie dans ses formes graves. Là, on vient d'apprendre que pas mal de médicaments ne vont plus être remboursés, ce qui pose le problème à la fois de la légitimité de ces médicaments et deuxièmement du non-remboursement. Si les familles ou les personnes veulent continuer à prendre ces médicaments-là, il faudra qu'elles payent très cher. Dans cette deuxième hypothèse, est-ce que les labos sont prêts à les donner puisqu'ils ne les vendront plus de toute façon, ou est-ce qu'il va falloir trouver des modèles économiques différents ?
Alors, je ne suis pas tout à fait compétent pour vous répondre efficacement. Ce que je peux préciser, donc, en effet, c'est 4 médicaments qui vont être déremboursés. Ce sont des médicaments qui ne soignaient pas l'Alzheimer, mais qui permettaient, en effet, de ralentir ou de diminuer les symptômes des patients. Alors, c'est une controverse actuelle dans laquelle je ne vais pas entrer en détail. Pour ce qui est du coût de ces médicaments, là, ça va dépendre en effet tout à fait de la réaction de l'industrie pharmaceutique. Sachant que ça ferait de la France une exception dans le monde.
Sachant que la France est déjà un des pays où les médicaments sont payés au prix fort.
Pas forcément.
Oui. Bon, pas forcément. Allez, faudrait faire un comparatif de ces médicaments-là. Voilà. Déjà, quand on voit tous les médicaments qui ne sont plus remboursés, les prix ont quand même flambé en pharmacie, non ?
Non, pas forcément. Non. C'est la partie non remboursée qui disparaît.
Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y aura sans doute de quoi réfléchir et de quoi agir aussi du point de vue des labos, hein, comment ils revoient leur politique de vente de médicaments, et puis aussi à l'État qui semble s'être penché, alors sur quelle base je ne sais pas, hein, sur l'utilité et l'intérêt de certains médicaments, puisque en principe les médicaments remboursés correspondent à des effets constatés par des gens qui ne peuvent pas être soupçonnés d'être jugés partis. Je ne sais pas si vous voyez ce que
tout
je veux
fait.
Dire.
Tout à fait, les médicaments sont en effet jugés par des comités d'experts dont les intérêts sont connus et déclarés. Donc là, c'est tout à fait clair et net. Et il y a toujours la détermination du ratio entre efficacité et effet secondaire négatif. Et dans le cas de ces quatre médicaments, l'agence du médicament les avait déclarés intéressants.
Voilà, donc c'est une affaire en cours, on va dire. Hein. On ne peut pas actuellement voir les effets à long terme ni savoir de manière précise comment on peut considérer c'est une décision maintenant.
Ça a été décidé, oui.
Décidé, hein, d'accord. Par contre, on peut imaginer d'autres formes d'intervention, notamment le diagnostic, j'allais dire... anticiper, enfin longtemps avant, voir comment on peut détecter les maladies, voir comment on soutient les personnes qui pourraient avoir cette maladie ou qui se développent sans qu'elles ne le sachent. Hein. Et puis voir aussi, d'un point de vue sociétal, est-ce que le fait de déclarer cette maladie aux patients, sinon aux assurances, ne met pas ces patients dans d'autres types de problématiques ?
Alors, si vous voulez, la situation actuelle, c'est que, comme vous le dites, les troubles cognitifs ou les symptômes apparents n'apparaissent que, grosso modo, 10 ans après que les réelles lésions au niveau du tissu cérébral commencent à apparaître. Et généralement, actuellement, nous n'avons pas de traitement qui permette d'agir sur ces causes. Et surtout, c'est qu'une fois que les symptômes apparaissent, j'oserais dire que la situation est malheureusement déjà très dégradée et qu'on ne peut plus que ralentir la progression de la maladie. Et donc, en effet, l'enjeu, c'est de développer des traitements qui pourraient agir sur la cause de la maladie et surtout les proposer à des gens avant, quand les lésions sont peu nombreuses, et donc ou même avant que ces lésions apparaissent, mais ça voudrait dire proposer à des gens qui n'ont pas de symptômes du tout. Donc deux problèmes. D'une part, c'est les détecter, et ensuite leur proposer un traitement qui peut avoir des effets secondaires. Tout traitement a des effets secondaires, alors qu'ils n'ont pas de symptômes, qu'ils vont très bien.
Alors là, je vois en région, les personnes qui ont un certain âge, on leur propose une détection du cancer colorectal ou des choses comme ça. C'est systématique. Hein. La proposition, ils ne sont pas obligés, mais est-ce qu'on peut imaginer pour une tranche d'âge de faire un bilan remboursé par la Sécu, pourquoi pas, hein, pour faire un état des lieux en toute discrétion ?
Alors, ça peut poser des problèmes. Alors, d'une part, au niveau de la maladie d'Alzheimer, il existe des mutations génétiques connues, qu'on dit familiales, où leur présence chez une personne est un signe que la maladie va se déclencher aux environs de 50-60 ans. Ces personnes, on est sûr et certaine qu'elles vont avoir la maladie. Et donc là, il y aurait un intérêt en effet de les détecter et éventuellement de leur proposer des traitements préventifs médicamenteux ou non. Ensuite, le déterminisme génétique de la maladie, en majorité, c'est plus une question de facteurs de risque. C'est-à-dire que vous portez des variantes génétiques qui peuvent ou ne peuvent pas provoquer la maladie. Et c'est l'accumulation de ces prédispositions à développer la maladie qui vont faire que vous développerez la maladie. Et donc ça pose un problème éthique. C'est est-ce que vous pouvez proposer un traitement à quelqu'un qui a un risque de développer la maladie, mais qui ne l'a pas pour le moment et ne pourrait ne jamais l'avoir.
Mais là, je ne parle pas de traitement, je parle de diagnostic.
Alors, ça pose un autre problème. C'est si vous diagnostiquez quelqu'un un risque de développer une maladie, d'une part, comment va-t-il réagir face à ce risque? Et d'autre part, comment la société va réagir vis-à-vis de cette population en risque?
Ça peut éventuellement, si ça se savait, hein, engager des employeurs à éviter certains types de salariés.
Tout à fait, ou à des assurances complémentaires de faire payer un taux beaucoup plus élevé.
Mmh. Ouais, rien n'est simple, effectivement. Alors, ces journées que vous annoncez, hein, la semaine prochaine, on va dire que ça démarre lundi, c'est ça, hein ?
Tout à fait, ça commence lundi par un premier symposium justement ouvert aux malades et à leurs familles, mais également au grand public.
Ça se passe où ?
Ça se passe à la Faculté de médecine de Lille, au pôle formation.
Donc ça, c'est ouvert à tous ?
C'est ouvert à tous, tout à fait.
Donc, quand je dis tous, ça peut être des personnes intéressées, hein, pourquoi pas des parents aussi, des enfants de gens qui ont cette maladie.
Tout à fait.
Ça peut être aussi des associations, parce qu'il y a un certain nombre d'associations qui se sont créées autour de ces problématiques.
Alors, en effet, vous avez de nombreuses associations, par exemple Vaincre Alzheimer, France Alzheimer ou même Europe Alzheimer. Et justement, ce symposium est dédié à le rôle primordial des patients et de leurs familles dans justement dans la recherche clinique. Sans patients et sans justement le volontariat de ces patients dans la recherche clinique, rien ne pourrait se faire.
Et sans les parents, enfin je veux dire les enfants, on peut faire quelque chose ?
C'est-à-dire
est-ce que de la part de la famille, il y a une vraie nécessité d'accompagner les parents et comment on peut les sensibiliser pour qu'ils soient le moins malheureux possible aussi dans cet accompagnement.
Tout à fait. C'est la thématique donc de l'aide aux proches aidants, en effet, puisque ce sont des maladies neurodégénératives qui ont un fort impact sur, bien sûr, le patient, mais aussi sur leurs proches. Et la gestion, par exemple, du stress, de la vie de la famille, c'est-à-dire gérer le patient lorsqu'il faut faire des courses, par exemple, ou comment pouvoir continuer à travailler si son conjoint est malade et demande justement une attention et des soins continus, sont très importants, en effet.
Alors, il y a aussi de nouveaux métiers, hein, qui sont mis en place. Je parle de tout ce qui est accompagnement des personnes âgées avec toutes les structures associatives ou maintenant de plus en plus commerciales, hein, qui organise l'aide à domicile, sachant qu'il y a même des sociétés d'assurance qui sont investies dans ce domaine pour, elles, gagner vraiment de l'argent. Mais il y a aussi des associations qui œuvrent vraiment de manière très sérieuse dans notre région pour accompagner les personnes qui ont besoin d'aide à domicile. Et voilà, donc avec aussi une partie qui peut être financée par le Conseil général, puisque les conseils généraux sont... ont la compétence des personnes âgées, du suivi des personnes âgées, c'est leur domaine, j'allais dire, peut-être un des plus coûteux d'ailleurs, hein, avec les collèges.
Comme vous dites, la prise en charge des patients et de leur famille a un double aspect. D'une part, tout ce qui est l'aspect santé, qui demande déjà aussi une coordination de beaucoup de spécialités, les neurologues, les orthophonistes, les gériatres, les neuropsychologues, qui vont justement accompagner le patient, le faire en sorte que les symptômes justement se développent plus lentement. Gérer également le proche aidant, puisqu'ils sont, comme on expliquait, vraiment en première ligne dans la maladie, et que les aider justement à mieux gérer la prise en charge du patient et également leur propre prise en charge est très importante. Ensuite, vous avez tout l'aspect sociétal, c'est-à-dire pouvoir continuer à travailler, parce que certains patients d'Alzheimer, en fait, continuent à travailler dans un premier temps, puisqu'ils peuvent apparaître à 50 ans, et aussi permettre aux conjoints de continuer à travailler, tout à fait.
Voilà, donc on n'a pas résolu le problème aujourd'hui, même ce symposium ne le résoudra pas dans un délai très court. Par contre, se pencher sur comment on s'organise, comment on s'adapte, comment on aide aussi, c'est évidemment très important. Donc 4 jours, on va dire, hein, de réflexion, et dont 2 jours publics. On peut rappeler que ce symposium, c'est un symposium qui se réalise tous les 2 ans et que là, c'est à Lille.
Tout à fait. Alors, c'est en fait 2 événements grand public qui seront proposés. Comme je disais, le premier symposium le lundi à 16h30 à la faculté de médecine. Ensuite, vous avez le dernier jour, une conférence de clôture qui sera effectuée par le professeur Pasquier et le professeur Amouyel au niveau de l'auditorium du Musée des Beaux-Arts, et qui permettra de proposer un résumé de toutes les communications qui ont été faites durant ce congrès.
Voilà, donc on va peut-être donner une adresse internet pour retrouver tous ces éléments. On retrouvera aussi la contribution de Carl Cordonnier, qui est un de nos grands amis, puisqu'on a beaucoup travaillé avec ce photographe qui est dans notre région.
Tout à fait. Après le symposium du lundi, en effet, nous avons une présentation de Carl Cordonnier, donc artiste photographe, qui a suivi plusieurs familles de patients d'Alzheimer et de syndromes apparentés, et pour illustrer justement des moments de vie de patients et de leurs familles.
Bien, merci Maximilien Van Laan. Je rappelle que vous êtes chef de projet donc de cette opération et de bien d'autres choses au CHRU de Lille et à l'Université de Lille. On peut rappeler l'adresse internet où on peut avoir les éléments?
Oui, tout à fait. Alors, c'est www.rfmassa2018-lille.fr, où vous pouvez le trouver sur Google en tapant RFMassa 2018.
Voilà, sinon, on taperait quoi? Symposium
RFMassa 2018, et vous le trouverez. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, très bonne journée, et puis donc, bons travaux pour la semaine prochaine.
Merci beaucoup.